RTVFM vous présente une émission spéciale à l'occasion de la fête de la radio pour célébrer ses 100 ans et les 40 ans de la libération des ondes.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, 18h01, vous êtes à l'écoute d'RTVFM sur le 102.2 à Carpentras. Ça y est, c'est la semaine de la fête de la radio aujourd'hui, ce 1er juin. Bonjour monsieur André Dessert.
Oui, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent.
Technicien animateur à RCVL à l'époque, on va en parler, aujourd'hui vous êtes retraité, mais aussi président, grand maître, confrérie des rabassiers de Carpentras.
Oui.
On parle des truffes, bien évidemment.
Oui, j'ai cet honneur.
Nous avons aussi à nos côtés Laurent Bedboy, ancien animateur radio, aujourd'hui directeur général du Patchwork Music Label. Vous avez été notamment aussi sur Radio 65, Radio Pays, Europe 2, Énergie Po, Skyrock Tarbes. On va parler du Sud-Ouest. Donc
oui, tout à fait. Oui, dans le Sud-Ouest, oui. Oh, il y a fort longtemps quand même.
Il y a quelques années. Mais on en parlera justement, ça nous rappellera de bons souvenirs. À nos côtés aussi, on ne le présente plus, Gilbert Willy. Willy, pour ceux qui nous connaissent et qui suivent sur l'antenne d'RTVFM, tu étais anciennement animateur de l'émission Carte Postale le dimanche sur RFM Tour de 1981 à 1988 quand même.
Oui, tout à fait.
Donc tu as bien connu les radios libres un petit peu.
Voilà. Oui, en plus à l'époque, je faisais le jour du Seigneur, c'était le dimanche.
Voilà, et donc tu étais sur RFM et aussi RMS, puisqu'il y a
eu premier.
En tout premier, voilà.
Tout à fait.
Et puis tu es aujourd'hui animateur actuellement sur RTVFM.
RTVFM, là je me trompe pas.
Ah non, là c'est bon, t'as changé les lettres un petit peu. Et à nos côtés aussi pour cette émission, alors c'est Stéphanie qui va gérer aussi la partie vidéo et qu'on entendra aussi sur un petit peu l'historique des radios qui ont existé dans le département. Stéphanie, bonjour.
Bonjour Florian.
Alors nous on est un peu plus jeunes, par contre on n'a pas connu l'époque de ces radios libres, tout à fait, quand même.
C'est vrai, on va découvrir des choses, peut-être.
Voilà, donc un petit peu le programme de ce soir, on va vous le donner. Si vous nous écoutez, vous nous suivez d'ailleurs en Facebook Live actuellement, sur Twitch aussi, en simultané, et sur Twitter. Voilà, trois plateformes, rien que pour vous, donc vous avez de quoi choisir. Et puis, donc, on commencera avec un petit peu le résumé, l'historique de ces 100 ans de la radio et 40 ans de la libération de la bande FM. Ce sera avec Bruno, que j'ai pas présenté. Bruno qui est en technique et qui viendra nous rejoindre aussi sur le plateau.
Bonjour à tous.
On aura aussi un petit peu plus tard des extraits d'RCVL notamment, où là on entendra aussi Jean-Pierre Chabanne qu'on a eu par téléphone, et là il nous parlera un petit peu bien de cette historique, on verra aussi, si vous nous suivez sur les réseaux, quelques images défilées. On aura aussi l'extrait d'RCVL, l'armoire aux souvenirs, ça c'était d'une des émissions que vous avez animées, monsieur Dessert.
Que j'ai créé.
Et que vous avez créé, vous voyez. Donc on aura ces extraits-là, on aura aussi quelques extraits sur le foyer 3e âge de Sarian, et puis la vie de Luis Mariano. Et on aura aussi des extraits de l'émission Si le compta m'était compté. Alors c'est pas une émission spéciale RCVL, mais en tout cas on a retrouvé pas mal d'extraits, donc c'est pour ça qu'on a souhaité les mettre en avant aussi dans cette émission. Et on finira par RFM Tour avec toi Gilbert, voilà, oui. On trouvera quelques extraits notamment de cette émission Carte Postale avec aussi des jingles d'époque. Ça vaut le coup. Voilà, alors pour présenter un petit peu, pour démarrer cette émission, moi je vais demander à Laurent Bedboy peut-être de se présenter, de présenter aussi peut-être tout d'abord les radios dans lesquelles il a pu profiter les années 80, on va dire,
libération. Oui, tout à fait, les années 80. Mais en fait, ça s'est passé très simplement, vu que je m'ennuyais énormément à l'école. Je me suis retrouvé très rapidement dans une radio locale libre qui s'appelait donc Radio 65, ma toute première radio. Cette radio-là, elle était dans une ville que tout le monde aime beaucoup et tout le monde a entendu parler, puisque c'est Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées. Et oui, je sais, ça paraît bizarre, mais on avait une super radio et puis une super équipe. Et donc, je rencontre la directrice des programmes un jour lors d'une soirée. Elle me dit, écoute, comme tu fais de la sono, tout ça, ça se répète bien que tu fasses, qu'ils viennent voir la radio, on en cherche des animateurs, tout ça. Bon, je dis pourquoi pas.
Et donc, c'est comme ça que tu es rentré un petit peu dans le milieu de la radio.
Mais complètement, j'avais 14 ans.
Oui,
j'étais très jeune, oui, mais on n'était qu'une équipe de jeunes. Hein. Alors, chacun avait sa particularité. Moi, j'étais plutôt un petit peu, je faisais un petit peu musicalement. Hein. La directrice des programmes, m'avait demandé de faire quelque chose de plus variété, pop et rock. Il y en a qui faisaient que du reggae, d'autres qui faisaient que du métal.
T'étais que sur des émissions musicales?
Ah oui, quasiment. Mais très vite, vu l'ampleur que ça a pris, je me suis retrouvé à faire la pub. Parce qu'en fait, j'avais une idée, c'est-à-dire de faire participer les commerçants de la ville, de Lourdes. Tous les commerçants, avec un jeu qui s'appelait la Caneuve du 103.9, hein, on a créé ça et ça a vachement bien marché. C'est-à-dire qu'on faisait gagner des cadeaux et les commerçants, en fait, offraient des cadeaux à des. Pendant le jeu, hein, en temps réel, c'était en direct. Et donc, il y avait une grille avec. Des chiffres et des lettres, et donc si mettons l'auditeur disait B3, et bien ça tombait sur un cadeau, baf, c'était gagné, et voilà. Et donc ça a très 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 bien fonctionné, c'est ce qui m'a permis de pouvoir après faire mon émission comme je voulais, avec beaucoup plus d'auditeurs, et ça a très très bien fonctionné. C'était le tout début.
Alors Laurent, tu es passé par Radio 65, Radio Pays, ce sont des radios dites libres.
Oui.
Et ensuite, tu as été sur des radios qui sont aujourd'hui, ou qui n'existent plus, puisque Europe 2 est devenue Virgin aujourd'hui, qui sont plus radio commerciales, Énergie Pau aussi, à l'époque peut-être, est-ce qu'ils étaient déjà commerciales aussi, et Skyrock Tarbes.
Oui, tout à fait. Alors en fait, déjà nous, Radio 65, on a été racheté par Europe 2, donc je suis passé par Europe 2. Très vite, je me suis ennuyé, donc on m'a proposé, je connaissais déjà l'équipe Énergie Pau, donc du coup je me suis retrouvé sur Énergie Pau, parce qu'il y avait encore un décrochage local. C'est-à-dire qu'à l'époque, les radios nationales arrivaient fort, mais il y avait quand même du décrochage du local, donc c'était ça qui m'intéressait énormément. Donc c'est pour ça, vu que j'avais un petit nom d'animateur, tout le monde me connaissait dans la région, entre Bordeaux, Toulouse, vous voyez, cette région-là, j'étais assez connu, c'est-à-dire que j'avais la disco mobile aussi, donc du coup, ça aide beaucoup.
Mais on va en parler justement, comment, tout à l'heure, durant l'émission, puisqu'on est ensemble, si vous nous écoutez pendant plus d'une heure, on va parler un petit peu justement comment on mettait les titres de musique à l'époque. Aujourd'hui, on fera le comparatif, tout ça, au niveau matériel avec Willy que je regarde sur
RFM. Ça a bien changé, ouais.
Voilà. Laurent, on va revenir de toute façon tout au long de cette émission avec toi. Et puis, on va aussi, André Dessert, peut-être se présenter un petit peu aussi sur RCVL.
Oui, bien écoutez, alors avant de commencer, si vous me le permettez, je voudrais remercier tout le taf de RTV-FM pour m'avoir invité. Comme j'ai dit à Stéphanie quand elle m'a appelé, elle m'a dit on aimerait bien que vous veniez parler un petit peu de RCVL. J'ai dit vous allez me faire pleurer parce que. C'est 40 ans, c'est 40 ans de ma vie en arrière, voilà. Donc RCVL a été créé par la volonté du maire de l'époque, Maurice Charretier, et de Guy Farche-Palais, qui était son adjoint à la culture, qui avait créé l'Odyssée. Alors l'Odyssée comprenait trois associations en loi 1901, Rencontre, qui était une association à l'édition livres et dépliants, Carpentras Notre Ville, publication périodique gratuite, et le CARC, le Centre Audiovisuel Régional Carpentracien, où il y avait la photothèque, cinémathèque, montage de diapos, donc où j'ai participé aussi. Et ensuite, la création de RCVL. Voilà.
Vous avez participé à cette création, donc vous aussi ?
Oui.
Voilà. Et est-ce que vous avez, à quel genre d'émission, justement, vous aviez pu réaliser ? On en entendra des extraits d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ?
La première fois où j'ai poussé la manette pour lancer RCVL, je n'avais pas d'émission, j'étais technicien, c'est tout. Je m'occupais de la technique. C'est ensuite, d'ailleurs, grâce à Jean-Pierre Chabanne et à Jean-Luc Gagné,
on va entendre dans quelques minutes d'ailleurs,
qui étaient nos deux directeurs, qui est vraiment, j'ai beaucoup de reconnaissance pour eux parce que ce sont des gens qui nous ont tout appris. Parce que quand je ne sais pas comment vous étiez, vous, là, les collègues qui sont auprès de moi, mais moi, je n'ai jamais appris à parler dans un micro. Donc, on a tout appris. Donc, Jean-Pierre Chabanne et Jean-Luc Gallini nous ont appris surtout ce qu'il ne fallait pas faire. Ça, c'est très important. Par contre, ce qui est important, c'est qu'ils nous ont dit... Vous avez une personnalité, vous avez quelque chose que vous allez créer, une émission que vous allez créer, vous la conduisez comme vous la sentez. Bon, moi, je vous dirai au fur et à mesure ce qui va et ce qui ne va pas. Mais voilà comment on a commencé. Et puis je n'étais pas le seul,
Alors, une autre question, monsieur Dessert. Oui. Une autre question. On est radio libre. Pourquoi radio libre ? Justement, il y avait la liberté à l'époque ou c'était aussi professionnel ? Moi, je vais revenir sur ça un petit peu.
Ah non, c'était libre. On n'était pas des professionnels. Il n'y avait aucun professionnel.
Non, aucun. RCVL. Totalement free.
Alors, voilà. Ça, je peux vous le garantir.
On peut se permettre
si
des choses.
Si vous me traitez de professionnel, alors merci. Merci. Non.
On était tous en roue libre.
On a tout appris. C'était une équipe soudée parce que lorsqu'on faisait une émission, il y avait une complicité avec le technicien, je ne sais pas vous, je pense que c'est pareil. Sans le technicien, on peut rien faire. Parce que
tu avais de la chance parce que tu avais un technicien, tu peux en parler.
Oui,
effectivement, aujourd'hui, le technicien fait aussi l'animateur.
Et ça. Donc, moi j'ai commencé comme ça aussi.
Mais à l'époque, c'est pour technique. Ça, il a beaucoup de chance. Je pense que, comme toi, nous, on n'avait pas de technicien. On faisait tout.
Ouais. Mais moi, c'est exactement ce que je faisais aussi.
Voilà.
C'est-à-dire, je me retrouvais
Tu répondais au téléphone, tu mettais les disques, tu animait.
Il fallait caler,
tu ouvrais la porte quand il y avait quelqu'un qui venait.
C'est ça, ouais.
Mais ça, ça arrivait aussi à RCVL, c'est que quand vous aviez une émission que vous aviez créée, eh bien, qu'il n'y avait pas de technicien, eh bien, vous faisiez tout. Parce que votre émission, vous l'aviez enregistrée avant, donc vous étiez aux manettes, vous parliez, vous faisiez ce que vous deviez dire, et puis, paf, c'est vous qui lancez la...
Complètement, voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Oui.
Donc ça, c'est arrivé plusieurs fois.
Alors, monsieur Dessert,
vous savez tout faire, alors...
On va revenir sur RCVL tout au long de cette émission, bien évidemment. Je vais maintenant aussi présenter... Willy, il peut se présenter peut-être aussi ton époque sur RFM Tour et sur RMS aussi.
Oui, alors, moi, c'est encore un petit chemin différent. Bon, j'étais militaire à l'époque, donc je venais à la radio en tant qu'auditeur. Je suis venu pas mal de temps en tant qu'auditeur. Je regardais, puis ça m'a branché, quoi, parce que j'ai toujours été musical, ça m'a branché. Puis un jour j'étais voir le patron et je lui ai dit, bon écoutez, ça fait longtemps que je vous écoute, j'aimerais bien être animateur. Il me dit, mais aucun problème, on en cherche.
Donc au départ c'était bénévole.
J'ai toujours été bénévole. Toujours été bénévole.
Pareil pour André Dessert, c'était votre métier,
Moi, j'étais agent territorial, donc j'étais payé par la mairie.
D'accord, la mairie qui finançait pour la radio, pour RCVL.
Moi, j'étais payé en copinette.
Non.
Et pour Laurent ?
Alors, moi, j'ai commencé très jeune, donc du coup, oui, j'ai été bénévole pendant 2 ans, mais à l'âge de 16 ans, je me suis retrouvé à. Ils ont été obligés de me faire un contrat parce que l'émission avait pris une telle ampleur qu'il fallait régler les choses. Et puis, en plus, j'avais l'âge légal pour travailler, donc je me suis retrouvé avec je crois que ça s'appelait un TUC, travaux d'utilité collective à l'époque. Et donc c'est comme ça a été mon premier job officiel, avec un bulletin de salaire, tout ça, ça faisait bizarre.
on va revenir sur ça.
Florian. Non, moi je suis parti donc de la radio libre RFM puisqu'on est là pour la nommer en 88, et c'est juste au moment où justement ils passaient des bénévoles au contrat, parce que les grosses radios avaient racheté les radios locales qui portaient le même nom. RFM, et donc passé en salarié, et moi comme j'étais militaire, je ne pouvais pas être salarié, je ne peux pas rester bénévole. Donc voilà pourquoi j'avais aussi arrêté.
Et aujourd'hui, donc on n'est plus sur de la radio libre, mais presque RTL.
Ah mais aujourd'hui je suis payé, c'est pas pareil.
RFM, quelle chance hein.
Aujourd'hui, ah oui, très cher même. Non, on rigole. Beau le bénévolat.
Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire intervenir maintenant sur le plateau Bruno, qui est à l'arrière en technique, qui va nous donner un petit peu l'historique des 100 ans de cette radio et 40 ans de la Libération de la bande FM. On va revenir avec lui un petit peu sur quand est apparue tout simplement la radio. On aura un petit peu la date. Qu'est-ce qui a révolutionné aussi la radio et quand elle s'est démocratisée. Salut Bruno.
Salut, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors Bruno, avec toi, on va revenir un petit peu sur ça, sur ces 100 ans de la radio.
Alors, c'est dans les années 1920 que la radio est appelée à devenir un instrument de distraction du service public. Même si, pour avoir chez soi un poste récepteur, il faut indéniablement des qualités de bricoleur, le nombre des sans-filistes est maintenant suffisant pour que la radio puisse être écoutée. L'outil existe, même si l'on est encore très loin de la qualité sonore des futurs récepteurs. L'auditoire existe, il ne reste plus qu'à édifier les stations de radio au sens où on l'entend aujourd'hui. Le 29 décembre 1921, inauguration officielle du poste de la Tour Eiffel, en présence du ministre Paul Lafont, du général Ferrier, des artistes Lucien et son fils Sacha Guitry, Yvonne Printemps est notée. Lucien Guitry lit un poème de Victor Hugo, aux soldats de l'an 2. Si les émissions régulières ont commencé en décembre 1921, on peut considérer que le premier poste de radiodiffusion français est né en ce jour du 6 février 1922. Les émissions seront quotidiennes, mais encore peu variées. Elles consistent essentiellement en la lecture de bulletins météo par un soldat du génie et parfois quelques concerts organisés en direct dans le studio situé sous le Champ de Mars. En fait, les premières stations sont apparues entre la fin 1919 et 1920, en même temps au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne et aux Pays-Bas. Les auditeurs français pourront entendre les premiers programmes de météo et de musique réguliers depuis la Tour Eiffel fin 1921 et officiellement en février 1922. En octobre 1922, la Société française radioélectrique, SF, obtient l'autorisation d'effectuer à titre expérimental des émissions radiophoniques quotidiennes. À partir du 6 novembre 1922 sont organisés les concerts Radiola qui vont révéler la radiodiffusion au grand public. Les émissions Radiola sont effectuées par le poste radioélectrique de l'usine SFR de Levallois avec une puissance d'émission de 2 kW. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la radio est un véritable outil d'information, de propagande, voire de désinformation. Utilisée à la fois par les alliés et par l'occupant, la radio, par son pouvoir de persuasion, devient une arme de première force.
Et Bruno, qu'est-ce qui a du coup révolutionné un petit peu la radio et quand est-ce qu'elle s'est démocratisée ?
Alors, 1960, les 60s, le transistor révolutionne la radio, inventé en 1948 par trois ingénieurs américains. Le transistor va révolutionner le monde de l'électronique et de la radio. Son principe de fonctionnement est beaucoup plus proche de son ancêtre, la galène, que celui de la lampe. Très vite, le poste à transistor va devenir le transistor, petit, léger, portable, fonctionnant avec des piles faciles à produire, donc très bon marché. Il devient un objet de grande consommation que l'on emmène partout avec soi. Le 9 novembre 1981, la loi autorise les radios locales à émettre sur la bande FM.
Donc là, ça a été un petit peu le démarrage justement de André, de Gilbert et notamment de Laurent.
Tout à fait.
Voilà, c'est la fin du monopole de l'État, la fin du brouillage systématique des radios pirates par la TDF, la télédiffusion française. Un moment historique pour les ex-pirates des ondes qui peuvent sortir de la clandestinité comme la toute première Radio Campus Lille, créée en 1969. Radio Ivre ou encore Énergie, la nouvelle radio jeune. D'autres naissent, c'est le cas de Radio Nova et de la sulfureuse Carbone 14. Dans l'effervescence de la libération, près de 2000 radios sont recensées en à peine un an après la loi. La plupart ont disparu quelques années plus tard.
Et la loi d'ailleurs sur la liberté de communication audiovisuelle, quand est-ce qu'elle a été créée ?
Alors c'est en 1986, la loi sur la liberté de communication audiovisuelle est mise en place. L'article 1 de la loi est le suivant, la communication au public par voie électronique est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, et d'autre part par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de défense nationale, par les exigences du service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité pour les services audiovisuels de développer la production audiovisuelle. En 1989, le CSA est né, succédant à la Commission nationale de la communication et des libertés, le Comité supérieur de l'audiovisuel. Il tire cependant sa mission d'une précédente loi, celle de 86 sur la liberté de communication audiovisuelle. Celle-ci confirme et amplifie le tournant dans l'histoire de la télévision et des radios françaises qui avait amorcé au début des années 80, celui du passage d'un monopole d'État à un secteur ouvert qui voit coexister des médias de service public et des médias privés.
Alors oui, tu voulais revenir sur quelque chose.
Oui, je voudrais bien revenir sur la révolution dont tu parlais des radios libres, mais la révolution de la bande FM, en fait, a commencé en 1964. C'était une radio qui diffusait depuis un bateau et qui s'appelait Radio Caroline. Voilà, qui faisait entendre sa musique pop près des côtes anglaises en toute illégalité.
Mais je crois qu'il y a quelques années encore, on l'entendait. Il y avait encore Radio Caroline.
Après 3 semaines d'émission seulement, elle avait déjà 10 millions d'auditeurs qui écoutaient cette station. Elle était en mer. Voilà. Et voilà, 1964.
Ah oui, quand même. 1964, Bruno.
Libre comme la mer.
Ah oui.
Aujourd'hui.
Pirate même. Pirate à l'époque, excusez-moi.
Aujourd'hui, il y a les radios sur Internet. Vous les écoutez forcément sur Internet. Peut-être Laurent, tu écoutes sur Internet en streaming les radios ?
Ben, écoutez.
La nôtre d'ailleurs.
Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est vrai que j'écoute souvent RTVFM, mais j'écoute d'autres radios aussi. J'essaye de voir un petit peu ce qu'il y a, mais on se perd énormément. Il y a énormément de choses. Et le problème, c'est que trop de choix, voilà, tu es le choix en fait. Donc, il faut vraiment avoir une envie spécifique pour écouter une radio. C'est beaucoup plus simple à FM, on tourne. Et
bien sûr, mais il y en aura 50 qui vont arriver. On en parlera justement sur le DAB.
Il y a pas mal de choses.
André, est-ce que vous écoutez peut-être la radio sur Internet?
Oui, bien sûr, et bien comme tout le monde, parce que dans la voiture, à la maison, la télévision, il y a tellement de beaux programmes à la télévision.
qu'on écoute la radio.
C'est mieux.
Voilà. C'est un long sujet aussi.
Alors aujourd'hui, donc radio sur Internet, et que peux-tu nous dire à ce propos justement un petit peu, Bruno ?
Alors aujourd'hui, historiquement, la diffusion des radios par Internet, le streaming, a changé une première fois la donne. Sans physicalité de la modulation hertzienne, plus d'équivoque. La radio n'est définitivement plus en direct. Elle n'est plus éphémère, elle ne fait plus que passer. Elle reste, elle se matérialise, elle devient un objet concret, manipulable. On travaille sans doute différemment, sachant le résultat analysable et critiquable à loisir. Le DAB+, l'abréviation de Digital Audio Broadcasting, est le successeur numérique de l'AFM. En France, le DAB+ est aussi connu sous le nom de radio numérique terrestre. Le DAB+ permet d'écouter la radio gratuitement et sans abonnement d'un opérateur mobile. Vous pouvez capter le DAB+ partout par les ondes sans connexion, en voiture, chez vous ou au bureau. Vous aurez besoin d'un récepteur qui est compatible avec la réception DAB. La transmission analogique en FM rencontre de plus en plus ses limites de capacité. La bande FM est saturée dans plusieurs régions de la France, alors il n'y a plus de place pour des nouvelles radios et donc le choix des auditeurs reste limité.
Tout à fait, donc le DAB+, qui est une nouvelle norme qui est un peu, s'est démocratisée un petit peu récemment en France, hein, 2012-2014. Voilà, c'est arrivé sur les principales agglomérations françaises et ça arrivera notamment à Avignon. On va en parler dans quelques instants avec Bruno. Donc voilà, et puis justement, je vous invite à réécouter aussi des chroniques que vous allez entendre sur notre antenne à partir de demain avec monsieur Hervé Issard du CTA de Marseille, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, professeur en droit et communication donc du CTA de Marseille, qui reviendra justement sur ce lancement du DAB, ainsi que monsieur Bourgier Olivier, voilà, secrétaire général du CTA de Marseille, qu'on a eu le plaisir de recevoir dans nos studios tout à l'heure et qui ont été enregistrés, des capsules en fait audio qui ont été enregistrées avec les 5e médias donc du collège François Raspail. Et donc vous pourrez un petit peu voir cette historique, ce déploiement en région notamment, puisque c'est surtout la région qui nous intéresse et nos départements transfrontaliers. Bruno, quel est le futur du coup de la radio?
Eh bien, le DAB+, en DAB+, plusieurs radios émettent sur une seule fréquence. De cette manière, il y a plus de radios qui peuvent diffuser leurs programmes. Il y a donc plus de choix pour l'auditeur. Par exemple, à Lille, 38 radios sont disponibles en DAB+, dont 26 ne diffusent pas le programme en FM. Mais cet automne, RTVFM diffusera en DAB+.
Tout à fait, voilà. On n'a pas la date officielle pour l'instant à vous annoncer ce soir. On aurait aimé pour la fête de la radio, en ce 1er juin, vous annoncer la date officielle. En tout cas, voilà, ça pourrait être entre septembre et octobre. On vous tiendra bien évidemment au courant sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre tout au long de l'été. Et dès qu'on a la bonne nouvelle, on vous donnera la date précise de démarrage. Donc le DAB+, une technologie numérique. Alors André, est-ce que vous connaissiez le DAB+?
Ah non, pas du tout.
Alors,
pas du tout.
Donc voilà, donc, c'est une nouvelle norme. Hein. Vous avez connu peut-être la M.
Vous savez, moi je suis l'homme de 82. Hein.
Donc il y avait la M qui cohabitait avec la FM à l'époque.
Oui.
Voilà, et en pareil pour Laurent dans le sud-ouest, il y avait la M aussi.
Oui, complètement. Oui. C'est vrai que moi je connaissais le DAB+ parce que j'en ai entendu parler plusieurs fois. Le principe du numérique, hein, on passe plusieurs signaux dans un signal, ce qui permettrait de pouvoir développer les canons, tout simplement. Donc ça, j'en ai entendu parler.
Et la qualité.
Oui, la qualité oui, aussi.
Surtout.
Ça fait partie de la qualité.
Donc effectivement, 26 radios nationales, 38 on va dire régionales, locales et nationales aussi.
Hein. Et nationales,
ouais. Voilà, et donc nous, ça nous permettra aussi de pouvoir nous capter bien plus loin que ce que nous avons actuellement limité à Carpentras.
C'est un gros avantage. Bonne nouvelle, alors.
Voilà. Alors, on va maintenant parler aussi de l'historique des radios locales, puisque sur le département, il y en avait des nombreuses qu'on a peut-être oubliées. Peut-être André, peut-être Laurent, vous n'étiez pas forcément de la région dans ces années-là. Peut-être André, peut-être va pouvoir avoir des souvenirs sur certaines radios, notamment, je pense à Fréquence 7 sur Avignon, voilà, donc on va peut-être
Radio Sorgue aussi.
Voilà, Radio Sorgue, effectivement, qui a existé. On va voir avec Stéphanie.
Radio Alligator.
Radio Alligator, alors je ne crois pas qu'on l'ait celle-là.
Non, on l'a pas celle-ci. Alors oui, moi je vais vous parler de trois radios locales. Je vais vous parler de trois radios locales. Donc, il y avait notamment Fréquence 7, qui s'appelait à l'origine Radio 5 sur 5. Elle a été autorisée dans les années 1980 à Orange sur la fréquence 98.1. Donc, son directeur, c'était Patrice Zanghi. Il était également le co-gérant de la discothèque Le Memphis à Orange. Et c'est seulement en juillet 1992 qu'elle prendra le nom de Fréquence 7, comme la station commerciale privée de Pertuis. Et en 1997, elle change une nouvelle fois de nom pour s'appeler la Radio du Rire, mais ses autorisations seront abrogées cette même année. Et pour la petite histoire, en avril 1989, cette radio, elle a été saisie par la gendarmerie car elle brouillait Radio France Vaucluse, puisqu'en fait les deux radios émettaient depuis le Mont Ventoux. Ensuite, il y avait aussi Radio 2L, puis plus tard Luberon FM dans le Vaucluse. Donc Radio 2L, elle a été créée par Michel Duval le 2 août 1982 à Ansouy, près de Pertuis. Et elle émettait sur la fréquence 88. Et alors Michel Duval, lui, souhaitait vraiment faire une radio de pays. Et durant ses premières années de vie, elle prend beaucoup d'importance, à tel point que 3 emplois sont créés en 1984. En 1985, Radio 2L prend le nom de Luberon Ventoux.
et c'est Michel Faure qui reprend la direction cette même année. Mais il n'y a plus d'animation, seulement de la musique non-stop. En 1987, elle va s'associer à un réseau d'animation Pacific FM qui fait simplement des interventions pour les informations locales. Et en 1988, le Beuron FM va cesser d'exister. Et en fait, je vais aussi vous parler de Azure FM. Donc elle a été créée en 1987 à Avignon. L'année de sa création, elle prend la franchise Europe 2 et prend le nom Azure FM Programme Europe 2. Sa fréquence est le 89.6. Et donc, elle émet d'Avignon, mais couvre aussi Carpentras et Orange. En 1991, elle va se développer puisqu'elle aura désormais trois fréquences. Donc, le 89 à Avignon, le 103.3 à Carpentras-Orange et le 89.5 à Vaison-la-Romaine et Valréas. Et elle est dirigée par Serge Lantelme. Mais la radio va encore changer de nom pour s'appeler Europe 2 Vaucluse, puis en 2008 Virgin Radio, qui remplace Europe 2 dans la France entière, et elle devient alors Virgin Radio Vaucluse.
Alors Stéphanie, merci un petit peu pour cette historique de radio. Alors on l'a vu, moi ça me fait penser un petit peu, il y a des fréquences qui ont été récupérées par des réseaux nationaux que l'on connaît aujourd'hui, notamment dans notre département. Je vois par exemple la fréquence de 89 FM, aujourd'hui c'est Virgin notamment, et le 133 aussi, donc Carpentras Orange, et on voit que finalement les fréquences sont restées plus ou moins les mêmes. 89.5 Vaison-la-Romaine est revenu pour une radio associative du côté d'Orange notamment, et en 2008 voilà Virgin Radio qui a remplacé Europe 2 en France. En tout cas voilà, c'est assez récent.
Sur le 103.3.
Voilà, exactement. Alors il y a aussi eu, Stéphanie, des radios vauclusiennes qui ont disparu. Peut-être certains noms vont pouvoir justement nous parler.
Oui, alors il y en a eu pas mal. Il y a par exemple Avignon Radio, Avignon Radio Assistance, Chic FM Avignon, Fréquence 7 dont je vous ai un petit peu parlé, Fusion 84, Leader FM, Radio 102, Radio 2L, Radio 5 sur 5, je vous en ai parlé aussi. Il y avait Radio Bigarro.
Voilà. Oui, d'accord.
RCVL, dont on va pas mal parler aujourd'hui. Radio Clémentine, Radio Cour des Miracles, Radio Diderot, Radio Grand Avignon, Radio Interdurance Luberon, Radio Libre Avignon, Radio Mistral numéro 1, Radio Orange, Radio Vaucluse Pirate et enfin TSF Avignon.
On voit qu'il y en avait beaucoup. Ah, effectivement, à cette époque, il y avait énormément de créations, énormément de projets radio. Alors, comment on peut expliquer finalement à l'époque cette explosion de radio libre ? Peut-être André, peut-être Laurent.
En fait, c'est tout simple. Ça va avec la radio libre. On était tellement libre, il y avait tout à faire, tout à créer. Il y avait une envie, un engouement. Surtout, je parle les jeunes de mon âge et tous les jeunes qui étaient avec nous, ils rêvaient tous de faire de la radio. Ils avaient des choses à dire, ils avaient des messages à faire passer, que ce soit des messages musicaux ou même que ce soit des messages politiques, ça leur arrivait aussi. On avait le droit de dire beaucoup de choses, on avait le droit de... On pouvait se permettre, en fait, c'est pas qu'on avait le droit, on nous laissait faire, on était totalement free. Et je pense que ça, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de radios. Et il y avait beaucoup... Alors là, on a eu une liste de radios officielles, mais il y en avait autant qui étaient non officielles.
Oui, officieuse,
tout à fait. Voilà. Radio Pirate,
il faut le savoir. Un gars, il mettait un ampli avec une antenne sur le bord de sa fenêtre et il alimentait tout son quartier et tout son quartier écoutait la radio. Et en plus, il passait la musique des copains, quoi. Alors ça, c'était extraordinaire.
Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas les médias d'aujourd'hui. Notamment, la télévision était très peu démocratisée.
Trois chaînes.
Forcément, donc le choix, on l'avait sur la radio.
Et oui, parce que...
Il faut
pas oublier que France... pas France 5, pardon. Que la 5 et la 6 est arrivée au milieu des années 80.
Tout à fait.
Donc, c'est pour
enfin
ça.
Des années 80 même
86 je crois, c'est ça, 86.
Voilà, c'est ça.
Alors que fallait savoir que nous depuis bien longtemps déjà on diffusait,
il n'y avait que les radios effectivement, ce qui explique que beaucoup de monde écoutait.
Il y avait un vent de liberté, mais je crois que on a connu, ceux qui ont connu cette époque là ils se reconnaîtront. C'est incroyable. C'est aujourd'hui, je pense pas que ce soit aussi possible.
C'est à dire qu'aujourd'hui je peux parler parce que j'en fais aussi, je suis à RTFM. On est un peu plus bridé, on est obligé d'être bridé. C'est le CSA qui de lui-même bride. Oui. Et donc l'animation n'est plus du tout la même qu'on a connue. Nous, on était roue libre, nous, effectivement, comme tu dis. Et d'où radio libre.
Il faut souligner à l'époque aussi que des fois, il pouvait y avoir des dérapages.
Il y en avait.
Il n'y a qu'à écouter Carbone 14. Si vous écoutez des extraits qu'il y a sur le net, vous verrez qu'il y a des dérapages énormes.
Mais le problème des dérapages qu'on avait à l'époque et que on a tous connu, c'est que la sanction, elle était immédiate. On nous coupait l'antenne. On n'envoyait pas un mail, ça n'existait pas. On n'envoyait pas un papier. On nous coupait l'antenne.
Et oui, donc, c'était sur une semaine, sur quelques
voilà,
jours.
Voilà, c'est ça, c'était des. Ouais, c'était...
T'étais en émission, on te coupait l'antenne.
Est-ce que c'est arrivé sur des radios où vous êtes intervenus tous les deux?
Oui, c'est arrivé, oui. On a eu des trucs incroyables.
Toi, tu n'as pas fait RFM, mais bon, tu connais l'histoire. Le 24 décembre de 81, c'est là qu'on a vraiment commencé à être libre ou qu'on avait été libéré. Coluche avait été quand même avec 60 000 lettres, il avait été déposé à l'Élysée parce qu'il n'arrêtait pas de couper RFM. Ouais. Il était RFM à l'époque, Coluche, mais bon, lui, effectivement, les rapages, on en connaît. Hein. Donc voilà, il nous coupait.
Spécialiste
ah, c'était. Oui, on a connu ça, oui. Enfin, moi, j'ai connu.
Moi aussi, que, tout à fait. Voilà. Oui.
André, est-ce que RCVL a eu des problèmes à ce niveau-là?
Non, aucun problème, mais je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit. Il y a un truc qu'on a oublié, c'est la CB. Oui. Rappelez-vous la CB.
Ah oui. Oui,
c'est vrai, oui.
Pourquoi la CB
on appelait ça Radio CB, oui.
Radio CB, oui. Mais là, il se disait des choses aussi.
Oui, fait, oui.
Voilà, c'est d'ailleurs pourquoi ça n'a pas continué. Hein.
Tout alors, à fait. Merci du coup Stéphanie un petit peu sur cet historique des radios. On va à 18h31 maintenant passer sur un interview que nous avons pu réaliser avec Jean-Pierre Chabanne qui était sur RCVL, directeur d'RCVL il me semble.
Jean-Pierre Chabanne était notre directeur en même temps que Jean-Luc Gallini qui nous vient de Radio Monte Carlo et qui c'est lui aussi qui a créé Radio Alligator. Voilà,
et donc, aujourd'hui donc il est retraité et on aurait pu faire un interview de plusieurs heures avec lui, voire plusieurs jours j'en suis certain, vous allez voir on l'a réduit à 13 minutes, hein, on a fait 13 minutes, il y aura beaucoup de choses à rajouter sûrement avec André, on en parlera juste
il
après.
Il est capable de vous parler pendant 24 heures. Hein.
Voilà, mais ça m'étonne pas, on pourrait faire les 40 heures de la radio même avec Monsieur Chabanne. On va l'écouter l'extrait et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission sur les 100 ans de la radio, les 40 ans de la libération des ondes. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux bien évidemment en même temps en vidéo sur Facebook, Twitter et Twitch. À tout de suite, donc on écoute l'interview de Jean-Pierre Chabanne. Monsieur Chabanne, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de cette émission pour la fête de la radio. Vous faisiez partie de RCVL Carpentras. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas?
Ah oui, bien sûr, je m'appelle Jean-Pierre Chabanne, donc j'ai 80 ans maintenant. J'étais à l'époque avec Maurice Chartier, le directeur de la communication de la COV. On avait créé une association pour ce faire qui s'appelait Odyssée, Office Districtal d'Information de Communication et d'édition, ODICE, voilà, que je dirigeais et qui comprenait un journal qui s'appelait le Journal du Comptoir, une radio RCVL et un service vidéo.
Alors, monsieur Chabanne, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus justement de RCVL et de votre parcours du coup, à cette radio?
Bien sûr. Alors, RCVL fait partie de cette création de radio en 81 que François Mitterrand, arrivé au pouvoir, avait suscité pour rééquilibrer régionalement les forces de pouvoir d'information un peu partout en France. Et donc, Maurice Chartier, qui n'était pas du bord de Mitterrand, mais qui avait compris tout l'intérêt d'une radio locale, avait donc créé, m'avait demandé de créer, dans le cadre de l'Odyssée, une radio locale. Et moi, j'avais aucune compétence en matière de radio. Il a donc fallu qu'on se trouve quelqu'un de compétent. Et il se trouve que l'ancien directeur de RMC, qui avait fait partie de la charrette de 81, un type remarquable qui s'appelait Gallini, Jean-Luc Gallini, qui était un journaliste exceptionnel, a accepté de venir diriger, créer cette radio, la structurer, nous apprendre le métier, créer une grille de programme. Voilà comment est née RCVL, Radio Carpentras, Bantoul, Luberon, parce qu'elle était censée aller jusqu'à là-bas. Et puis très vite, le nombre de radios locales étant devenu très important, il a fallu se limiter en portée d'émission pour ne pas devenir anthropophagique les uns les autres. Et donc, on a appris à réduire un peu la puissance de nos émetteurs, etc.
Donc, ce que vous êtes en train de me dire, monsieur Chabanne, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas de puissance allouée par le CSA, puisqu'il n'existait pas encore le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Oui, disons que le CSA n'existait pas encore, c'était en train de se faire, c'était un peu la grande forme d'Appoigne, et on faisait un peu ce qu'on voulait. Sauf qu'on se gênait les uns les autres, on a très vite compris qu'on ne gagnera rien, et on a donc appris à se partager un peu le territoire, et puis après est arrivée, en effet, la législation qui, elle, nous a imposé une puissance, etc. Alors, tout le monde trichait un peu, mais en général, on a été obéissant.
Alors, où se situe le studio, Monsieur Chaban, de RCVL Carpentras?
Alors, le studio d'RCVL, à Carpentras, à l'époque, c'était le château de la Roserie où était installé tout le service de communication de Nice, et la petite maison annexe qui était la station de fonction du concierge du parc de la Roserie, et qui avait, qui était une grande villa, qui était beaucoup trop grande pour lui. On avait donc installé là-dedans tout le local technique, la puissance, les appareils, enfin bon, le stockage, tout ce qui nous était utilisé, les studios aussi, bien sûr, qui étaient insonorisés, c'était bien fait, hein. On avait bien fait les choses. Alors, au niveau des moyens, vous allez peut-être me poser la question, au niveau des moyens, on avait le choix, comme tout est à niveau local, entre ne pas être subventionné par les communes, qui ont fait les communes, les intercommunalités qui créaient ce genre de radio, ou bien et vivre de la pub, ou bien être entre les mains des finances publiques, et forcément, le moyen était un peu plus réduit par rapport à ce que pouvaient gagner des grosses radios comme Europe 2, etc., qui avaient de gros moyens et des régies publicitaires importantes. Voilà.
Il y avait des bénévoles, du coup, Monsieur Chaban, des personnes qui venaient gracieusement dans cette radio, évidemment.
Oui, ça arrivait. Bon, on avait, on va dire, 15 permanents qui, eux, étaient payés à des degrés divers. Et puis, beaucoup de bénévoles. Un retraité, un vieux prof d'histoire qui aimait la matière qu'il avait enseignée toute sa vie, venait raconter l'histoire du canton de Nessin. Un autre venait parler du jazz parce qu'il avait une belle collection de disques de jazz. Un autre faisait l'accordéon. On avait vraiment beaucoup de bénévoles qui venaient nous aider. Je vais dire au cousin, je dirais presque 20. Et on avait donc autant de sujets d'émission qui variaient avec eux. On vérifiait leur crédibilité, leur fiabilité, mais on n'avait pas de problème en général, c'était déjà vraiment sympa.
Alors moi je me pose une question, puisque moi ça fait aussi maintenant presque une dizaine d'années que je fais de la radio associative, mais à l'époque, pourquoi est-ce que vous avez commencé à faire de la radio ?
Eh bien, parce que c'était un moyen de communication de proximité, et qu'au lieu d'écouter les radios départementales comme France 2 ou plus, etc., il y en a partout, n'existaient pas à cette époque. Donc on avait le choix entre France Inter, RTL, les grandes radios, les grands médias, la nation, et sur le plan régional, il n'y avait pas grand-chose ici. Il y avait FR3 Marseille qui faisait un petit, enfin à l'époque ça s'appelait pas comme ça, enfin bon, qui faisait un peu de régionalisme, mais en revanche, si vous avez besoin de savoir ce qui se passait dans le canton de Nessin, Carpentras et ses alentours, dans les villages, etc., nous, on a créé cette radio pour donner une vitrine, une parole, puis des discussions dans les périodes où il y avait des débats, aux maires environnants, tout le monde avait le droit de venir travailler. Moi, je faisais même une émission qui s'appelait Les Clés du Village. J'allais interviewer tous les maires qui étaient dans la zone de couverture de notre radio.
Alors justement, vous parlez un petit peu plus de programmation. Il y avait une autre émission aussi qui s'appelait Si le comptable était compté. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus?
Elle me parle beaucoup parce que c'est moi qui l'avais créé avec Georges Brun. Georges Brun, c'est un type assez fabuleux. Mon bon maître Georges Brun, il était dentiste à la retraite et il adorait l'histoire. C'était un conteur né. Il était drôle, il était précis, travailleur, il préparait ses émissions. C'est un bonheur de travailler avec lui. Moi, j'étais son faire-valoir, j'étais son clown blanc, mais c'était un bonheur d'écouter. Et puisque vous me demandiez une anecdote, je vous signale que c'était une des émissions les plus suivies, hein, parce qu'en plus, je faisais le montage des émissions. Quand je revenais après l'avoir enregistré avec mon agrafe, je prenais des disques de l'époque qu'on avait évoqués, par exemple Carpentras dans les années 20, les balles, les fraisières, enfin, tout ce qu'on peut imaginer de ces époques-là. Et donc, je prenais des disques avec des morceaux de musique et de chansons de cette époque. On avait une collection incroyable de disques que nous avions apportés nos fans, nos auditeurs. Et donc, voilà, je montais ces émissions, et ces émissions, elles étaient envoyées à 13h, je me rappelle plus quelques jours, tout ça, c'est un peu ancien pour moi. Mais au bout d'un moment, les gens qui allaient voir un match de rugby à 13 à Avignon, arrivaient à Entraigue, et ils commençaient à perdre l'écoute de RCVL. Eh bien, pour finir l'émission à 13h, 13h30, de Georges Brun, qui s'appelait en effet Si le comptable était compté, ils arrêtaient la voiture, ils laissaient finir l'émission avant de continuer la route vers Avignon. Voilà la fidélité qu'on avait, c'est incroyable, on avait un succès, mais vous n'imaginez pas la fidélisation de notre auditorat, quoi. C'était incroyable.
D'où vraiment la radio libre, effectivement, puisque là, ce n'était pas géré par l'État. On va peut-être parler aussi du style musical. Vous me parlez de tout à l'heure que vous passiez des CD. Alors à l'époque, je ne sais pas exactement comment c'était. C'était peut-être des vinyles. Aujourd'hui, c'est dématérialisé.
Oui, c'était des vinyles. Les CD existent, ont commencé à exister. Ça s'est affiné petit à petit. Mais au début, on était artisans, quoi. Ouais. Et puis pour passer ces disques, on nous amenait qui étaient des disques de collection. Il fallait avoir des platines pour les passer en 33 tours, en 45, en 78 quelquefois, quand c'était très ancien. Voilà. Et on était relativement bien équipés au début. Puis ça s'est dégradé au bout d'un certain temps, au bout de 10 ans, qu'a duré cette radio. Enfin, le temps où j'y étais, parce qu'après, ça a continué un peu avec Europe 2 et avec d'autres directeurs que moi. On s'est beaucoup amusé. C'était une sorte de grand jouet pour grands enfants et qui correspondait à un besoin. Les gens y trouvaient toute l'actualité possible et imaginable de ce qui allait se passer, de ce qui s'était passé. On entendait des voix à la familière. C'est une radio, quand on l'allumait, on était au pays, quoi. On était chez soi, quoi. Et c'est ce qui fait qu'elle était allumée en permanence dans énormément de foyers à Contadère. Et ça lui a valu ce succès-là.
Et au niveau style musical, est-ce que c'était très varié? Il y avait un style musical bien particulier sur RCVL?
Ah oui. Alors moi avec mon âge, évidemment, j'étais plutôt un peu porté sur la musique des années 40 à 60. Mais il y avait des émissions de jeunes, il y avait Super Extra Cool du fils Mugler, qui était une émission à gros succès, qui passait tous les tubes de l'époque, hein, et avait tout ce qu'on pouvait imaginer. Au fur et à mesure que les musiques sortaient, que les nouveaux artistes, les nouveaux styles ont collé à l'actualité avec des animateurs spécialisés divers. Voilà. Et on recevait aussi beaucoup d'artistes, car à cette époque-là, des filles comme Rose Laurence, etc., bien d'autres, hein. Africa, je me souviens. Tous ces artistes circulaient de radio locale à radio locale, et il y avait quelques audiences pour se faire connaître, et puis après atteigner la renommée au niveau national.
Monsieur Chabanne, est-ce que vous couvriez aussi des événements? Vous étiez sur le terrain?
On était sur le terrain en permanence, hein. On se partageait le boulot, on était, six journalistes à plein temps. Je me souviens que Maurice Saint-Ignan était venu pour fêter la course de côte du Mont-Ventoux, à l'époque où il conduisait une Bugatti, je ne sais plus trop quoi. On était à Bédouin au départ, on discutait, on interviewait tous ces grands anciens champions automobiles. Ça pouvait être un autre sujet. Tout ce qui se passait là d'important dans notre zone de couverture était couvert par un journaliste comme on le fait dans la presse, quoi.
Alors, il y a eu aussi une anecdote il y a quelques jours, on en avait parlé hors antenne par téléphone. Oui. Pour les flash infos le matin, ça vous arrivait des fois d'écouter d'autres radios?
Ah, mais ça ne vous arrivait pas de temps en temps, ça vous arrivait tout le temps. Comme on n'avait pas d'autres moyens que les finances publiques, on se limitait évidemment à ce qu'on nous donnait. Et on n'avait pas les moyens de s'abonner à des agences AFP qui nous crachaient des scripts et de l'actualité en continu. Aujourd'hui, Internet, on ne sait même plus ce que c'est que les téléscripteurs, etc. Et les dépouillements d'agences et de secrétariat qui étaient chargés de ça. Mais nous, à notre époque, comme on n'avait pas les moyens de s'offrir ça, on se levait à 4h du matin. 4h du matin. Celui qui faisait le journal d'ouverture à 7h le matin, pour les gens qui allaient bosser, à 4h du matin, il avait écouté à 4h, 5h et 6h toutes les radios possibles et imaginables pour essayer de se construire à la main, écrit. Un bulletin qui correspondait à l'actualité des médias, les médias nationaux. On n'avait pas d'autres moyens, on faisait avec les moyens du bord. Hein.
Alors, monsieur Chabanne, pour finir un petit peu cette interview, parce qu'on pourrait parler, je pense, des heures avec vous sur moi, j'avais une question. Vous, votre vision de l'évolution de la radio entre ces années donc 80 et aujourd'hui, par rapport donc à tout ça, est-ce que vous en avez une de vision?
Alors, bien sûr, j'ai une vision. La première chose que je sais, c'est que moi qui suis resté 10 ans à la tête de cette radio, aux côtés de Galigny au début, puis quand il est reparti après dans RMC, après le retour au pouvoir, sa carrière, est un garçon remarquable. Quand je lui ai succédé donc, à la direction de la radio, on a vu petit à petit nos équipements s'épuiser, les nagras tournaient moins vite, les c'était un peu plaintif, etc. Bon, bref, même l'antenne et les émetteurs auraient eu besoin d'être changés, etc. Mais on n'avait pas les moyens. Donc, petit à petit, elle s'est éteinte de soi, je dirais. Et là est née, sont nées les radios locales et les radios départementales locales, comme France Bleu Vaucluse, qui nous a piqué les meilleurs journalistes, les meilleurs animateurs, les meilleures émissions, les meilleurs thèmes. Mais comme on était prêteurs, ça nous a pas chagriné. Et ensuite, donc, pour en finir, après la naissance des radios départementales, les radios nationales se sont démultipliées, c'est-à-dire se sont, je dirais, régionalisées. Europe 1 est devenue Europe 2 en région, etc., etc., mais c'était vrai pour AMC, c'est vrai. Et il y a eu cet état intermédiaire, je dirais, de relais des radios locales, qui après ont toutes disparu les unes après les autres, n'ont survécu que celles qui ont été rachetées par les gros, de acheter les plus grosses, qui étaient achetables, parce qu'il fallait être privé pour être achetable, ce qui n'était pas le cas des radios locales comme la nôtre, qui étaient publiques, puisqu'elles ont été financées par la collectivité. Voilà.
Eh bien, en tout cas, Monsieur Chaban, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview, d'avoir un petit peu parlé de cette histoire de RCVL Carpentras. Nous, aujourd'hui, c'est RTVFM Carpentras. On n'est pas situé sur les mêmes locaux, mais effectivement, on a un petit peu, quelque part, cette histoire des radios libres qui reste ancrée sur notre radio aussi, puisque effectivement, nous ne dépendons pas de gros groupes. En tout cas, merci beaucoup aujourd'hui.
Je vous souhaite tout le succès possible. Bon travail et je vous écouterai avec plaisir.
Eh bien, merci beaucoup et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et puis merci beaucoup encore pour votre témoignage. À bientôt. Merci.
À bientôt. Merci.
Voilà, donc on a eu le plaisir de recevoir Jean-Pierre Chaban, RCVL, à l'époque. Voilà un petit
qui
peu.
C'était notre deuxième directeur. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire, Jean-Pierre, éternellement, je te serai reconnaissant de tout ce que tu as fait pour RCVL avec Jean-Luc Galigny. Car si RCVL a existé et qu'elle était d'une qualité exceptionnelle, eh bien, c'est grâce à vous deux. Vous nous avez laissé notre personnalité. Vous nous avez surtout éduqués pour essayer de faire les choses bien. Et bon, on a essayé, on a réussi.
Donc ça vous rappelle de bons souvenirs ?
Oh là 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 là. Si vous saviez ce qui se passe en ce moment dans ma tête, c'est...
Je vais peut-être rappeler pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre à 18h46. Pour ceux qui nous rejoignent aussi sur les réseaux sociaux, nous sommes toujours dans l'émission spéciale des 100 ans de la radio et des 40 ans de la libération des ondes. Je rappelle que ça se tient tout au long de cette semaine sur toutes les radios de France. Voilà, c'est à l'initiative du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et nous, RTVFM, on a souhaité aussi marquer le coup en parlant local, mais aussi, on a dit, régional, puisqu'on est allé aussi faire un tour dans le sud-ouest et même dans le nord-est du côté de Tours.
Voilà, donc dans le nord-est.
Nord, tu dis
dans
quoi
le centre.
Dans le centre, on dit centre, moi je ne voyais plus haut.
T'es bien carpentracien toi.
Non, on n'est pas pire que Istres où ils disent que au-dessus d'Avignon c'est le nord. Donc, 100 ans de la radio, toujours nos invités, je rappelle André Dessert, technicien animateur RCVL, aujourd'hui retraité président grand maître confrérie des Rabassis de Carpentras. Toujours à nos côtés aussi Gilbert Diaz alias Willy pour nos émissions et aussi à l'époque sur RFM, puisque tu étais animateur émission carte postale.
Je peux juste dire pourquoi je m'appelle comme ça ?
Allez, vas-y.
Ça va pas durer longtemps. C'est en fait ma fille qui m'a donné ce surnom un jour parce que c'était à l'époque Maya et Willy c'était le bourdon qui était très très dormeur. Et comme moi je suis un grand dormeur, ma fille de 4 ans me dit mais papa, pourquoi tu prends pas Willy pour la radio ? Et voilà pourquoi
donc
je m'appelle
c'est resté
Willy.
Aujourd'hui.
Et je reste toujours aussi dormeur.
Et puis aussi Laurent, donc ancien animateur radio sur Radio 65, Radio Pays, Europe 2, Énergie, Pause, Carioc, Table, en Pâle du Sud-Ouest, bien évidemment.
Chic FM aussi.
Chic FM, voilà, entre autres.
Et Maximum. Ça me revient.
Alors,
et encore un tout petit mot, si tu me permets, Florian, je vais rendre jaloux, et bien évidemment, Laurent et André, mais la toute première radio libre à avoir émis, c'est RFM, le 6 juin. Ensuite, ça a été le 13 juillet, Énergie. Ah, ça vous la boucle, hein, les gars.
Ouais, vachement. Ouais.
Alors, moi, j'aimerais revenir un petit peu sur ce qu'on vient d'entendre avec Jean-Pierre Chaban, notamment la préparation des émissions et notamment des flashs d'informations. À l'époque, on écoutait les flashs d'informations. Alors, il n'y a pas que ça, hein, mais à 4h, 5h ou 6h pour faire son flash sur l'antenne d'RCVL. Mais ça s'est passé ailleurs, hein, notamment l'Euroscope, parce qu'on disait en antenne, Laurent, sur d'autres radios. Ça paraît, à l'époque, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui, notamment pour rechercher l'information. Donc,
non, c'est sûr. Hein.
Donc, on passait par ce système-là.
Bien sûr. Il n'y avait pas d'autre moyen d'écouter ce que faisaient les autres et ce qu'ils disaient.
Alors, un Nagra aussi, j'en ai entendu parler tout
Nagra,
à l'heure.
Ah oui, le Nagra, c'est le phénix. Le fameux magnéto Nagra, qui a été, comme disait mon collègue Woody tout à l'heure, qui est l'ancêtre du Zoom aujourd'hui. Alors, en fait, c'est un petit magnéto à bande. On prenait ça avec une perche micro et on allait faire nos petits micro-trottoirs avec. Mm-hmm. Et c'est avec un son incroyable, extraordinaire, d'une qualité.
Même dans les animations, dans les magasins.
Oui, c'était très, très, très développé, hein, le Nagra, mais ça fait longtemps, hein, quand même.
Une qualité de son exceptionnelle.
Une très très belle qualité de son, et puis pratique, petit.
Puis les montages se faisaient.
Ça allait à une vitesse incroyable.
Tu vois, il n'y avait pas d'USB. Hein, oui, pourtant, on faisait du montage avec. Incroyable. Hein.
Oui, mais ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait aujourd'hui avec un logiciel sur informatique. Hein. Mm. L'édition, c'est ça. L'édition, c'est du cut. Oui. Mais sauf que là, il n'y avait pas d'informatique. L'informatique arrivait à peine. Début des années 80, on a commencé à avoir un peu d'informatique, oui, qui arrivait.
Vous n'aviez pas de problème de mise à jour à l'époque.
Oui, le fameux Amstrad.
Non,
il y avait l'Amstrad.
Il y a eu l'Amstrad, mais je pensais surtout à l'Atari où avait les premières synchro SMPTE, ces fameuses synchronisations qui permettaient de synchroniser les messages MIDI avec l'audio, et ça c'était c'était une grosse révolution. D'ailleurs la MAO
Thomson aussi,
la MAO d'aujourd'hui, le TO5,
c'est ça.
La MAO aujourd'hui sort beaucoup de ça, hein.
On parle du coup matériel, quel matériel on utilisait pour faire de la radio, pour faire une émission, que ce soit sur RCVL, que ce soit du côté du Sud-Ouest dans les radios où Laurent a été, ou du côté d'RFM et RMS?
Mais ça dépendait aussi de la radio, hein, parce que tout le monde n'était pas tout équipé pareil, hein. Il y avait beaucoup de radios qui faisaient les moyens du bord, hein. c'était un petit peu, mais par contre on avait toujours la même chose en général, c'était platine disque, parce qu'on passait beaucoup de disques.
On avait tous la Technics,
la MK2 de chez Technics, c'est
la Rolls.
Une valeur sûre, en fait, c'est surtout une référence. Et puis bon, après les magnétos pour les décrochages pub, parce que la pub, on la faisait nous-mêmes aussi, hein. On arrivait c'est-à-dire que si on avait des décrochages pub à faire local, il fallait qu'on écrive le texte. Ça, c'est un très très bel exercice, hein.
Ce que l'on fait aujourd'hui nous sur RTVFM aussi.
Tout à fait. Voilà. Et c'était, et d'ailleurs on nous a appris à le faire, c'était les grandes radios organiser des stages pour nous apprendre à le faire. Moi, j'en ai fait un à Argelès-Gazos, exactement, pour vous dire. C'est un petit village à côté de Lourdes, où j'ai fait passer une semaine formidable, où j'ai appris à écrire de la publicité, à écrire les textes pubs. À l'époque, c'était vraiment très, très novateur, parce que moi, j'arrivais là-dedans, je ne savais pas trop, et puis on nous a appris à faire du cut avec les magnétos, couper les bandes, coller, tout ça. Et on était vraiment des artisans.
Ah, des débrouillards, hein. Des couteaux suisses.
Oui, les couteaux suisses, on faisait tout. Ouais.
Mais par contre, ce que tu dis là, le problème, effectivement, quand on allait dans les grands groupes pour apprendre, moi, ça m'est arrivé aussi, quand on revenait, malheureusement, on n'avait pas le même matériel pour pouvoir mettre en valeur ce qu'on venait d'apprendre.
Mais en fait, on nous a appris à écrire. On nous a appris à écrire les mots, les phrases. On nous a appris tout ça. Dès le plus jeune âge, on nous apprenait à ça. Et ça, c'est bien, parce que ce côté transmission était important, quoi. Et puis, on avait l'impression qu'ils avaient vraiment envie de nous montrer. Ils avaient envie de. Il y avait vraiment des gens qui étaient personnellement.
Oui.
Qui avaient vraiment envie de nous montrer comment il fallait faire.
Hein. On avait de l'intérêt aussi. On a vécu ça tous les trois, hein, André aussi. Hein. On avait aussi de l'intérêt. On s'intéressait à ce qu'on faisait parce qu'on apprenait tout depuis le départ. Maintenant, ils arrivent avec quelque chose déjà en bagage, alors que nous on arrivait, on avait un baluchon, on n'avait pas de bagage. On apprenait tout sur place.
Sur place, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Ne vous plaignez pas trop, les collègues, parce que moi je faisais les reportages par téléphone. J'avais un téléphone.
Oui. Et bien, t'avais de la chance.
Tout ce qui était sportif, ça faisait par téléphone. Généralement, parce que là-bas, dans le sud-ouest, il y avait beaucoup de rugby. Comme vous pouvez savoir, c'est le pays du rugby. Donc tous les matchs et tout étaient tous reliés par téléphone. Hein. Et puis les interviews avec les joueurs.
Voilà, tu vois, contrairement à toi qui te balades maintenant dans le stade, nous, c'était au téléphone.
Ah, c'était un téléphone.
Dans le studio.
C'était un téléphone.
La technique a évolué.
Et justement, le seul souci lorsqu'on avait un reportage à faire, c'est de trouver une prise téléphonique.
Ah, et oui. Voilà.
Et sur RCVL, au niveau matériel, est-ce qu'on était bien équipé aussi pour l'époque?
De ce côté-là, non. Nagra est arrivé plus tard, mais c'était pour les journalistes. Nous, on avait, quand je faisais des émissions, que j'allais me rendre dans les foyers du 3e âge, on écoutera d'ailleurs des extraits tout à l'heure, eh bien, je faisais tout par téléphone.
Théorie.
C'est pour ça que la complicité avec le technicien était très grande, parce que tout reposait sur lui, il écoutait au fur et à mesure, et vous savez que dès qu'il y avait un blanc, quelqu'un que j'interviewais, qui préalablement m'avait dit, vous savez, vous pouvez me faire parler, parce que moi, alors, je parle, ouais, puis tout d'un coup, rien qu'à son regard, je comprenais que le gars, il était planté, quoi. Alors, donc, en radio, il n'y a pas de blanc, il faut pas de blanc, c'est interdit.
C'est pour ça qu'on peut dire qu'en fait, les techniciens qui se trouvaient en face de l'animateur, en fait, c'était les réalisateurs. Puisque l'émission, il a réalisé avec l'animateur, bien sûr, a parlé, il avait donc son horaire et tout ça. Mais derrière le technicien, il réalisait, là. Et encore, c'est encore comme ça maintenant. Très souvent, on se rend compte que le réalisateur, c'est celui qui est derrière les manettes. Mm-hmm. Et c'est un petit peu un conduit, quoi. Il est toujours là.
Si vous êtes fâché avec lui, il risque de vous pousser le micro quand il ne faut pas.
Exactement, oui. Exactement.
Alors, une petite précision, on parlait de matériel tout à l'heure, et tu en parlais toi. Pour donner un ordre d'exemple, l'émetteur à l'époque, un émetteur vraiment un équipement sérieux, valait à peu près 50 000 francs. Ce qui fait aujourd'hui 7620 euros.
Alors, quelle puissance?
Alors, on parlait pas en puissance, parce qu'on cher, disait pas 2, 3 KO, pas comme aujourd'hui. Mais on parlait en kilomètres. Et, au-dessus de 20 kilomètres, c'était vraiment quelque chose de très très sérieux. Et ça valait à peu près 50 000. Et ça représentait, pour donner un ordre d'idée, un meuble à chaussures aujourd'hui.
Oui,
un meuble à chaussures d'aujourd'hui. Oui. Alors que, comme on le sait nous, toi et moi, aujourd'hui, c'est à peine plus grand qu'un lecteur DVD.
Tout à fait.
Oui, c'est vrai.
Comparons ce qui est comparable.
Ah, voilà. Alors, dans le genre très important, on avait aussi le site de diffusion de RCVL, 33 mètres pour l'antenne, rien que ça. On les a vus sur les images défilées.
32 mètres.
32 mètres, même, pour être précis. Alors là, on rayonnait sur un rayon de combien de kilomètres?
Avec 4 pôles, normalement, avec un chef de service, avant de lancer les émissions, nous faisions le tour du département, ville par ville, et on notait au fur et à mesure. Tiens, là ça passe bien, là ça passe moins bien. 30 km en principe.
Oui, ce qui était...
Alors, vous savez, quand vous faites un rayon de 30 km autour de Carpentras,
c'est large, c'est très très large.
On a
vous allez jusque dans le Luberon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
D'ailleurs, RCVL, ça voulait dire Radio Carpentras, Ventoux, Luberon.
C'est bien de le rappeler, effectivement. Alors, nous, on est un petit peu curieux, on aimerait savoir avec Stéphanie si vous avez des anecdotes de cette époque. Sur des émissions, sur des sujets.
Oui,
André.
Moi j'en ai une. Lorsque nous avons organisé un jour un loto, quelqu'un dans l'équipe a eu l'idée de dire, si on faisait un loto RCVL, alors on a organisé un loto. Mais on a été complètement débordés parce qu'on a eu une affluence d'auditeurs qui sont arrivés pour jouer au loto peut-être, mais surtout pour mettre un visage sur les voix qu'ils entendaient tous les... Et là, on a été vraiment surpris de voir quand même qu'on avait une auditoire pas mal, quoi. On pouvait faire rougir pas mal d'autres radios, notamment Radio Vaucluse qui, à l'époque, voulait s'installer, avait fait une petite enquête et quelle est la radio que vous écoutez. Nous, on écoute RCVL, on ramasse les cerises, on a le transistor dans le cerisier, on écoute RCVL toute la journée.
À l'époque, la radio était très écoutée, effectivement.
Ouais, c'est, ça,
c'est une grosse spécificité.
D'où Radio Cerise?
Oui.
Peut-être que ça vient de là.
Peut-être bien. Peut-être.
Une anecdote peut-être pour Laurent aussi?
Oui, alors il y en a plein, bien évidemment. Moi, en ce qui me concerne, il m'est arrivé... oui, je peux vous en raconter une qui était... C'était la sortie du titre de l'album de U2, Without Without You. J'étais absolument pas au courant que ça allait sortir. Moi qui parle quasiment pas bien l'anglais du tout en plus. Et la directrice des programmes l'avait calé et je le savais pas. Et donc, je présente mon nouveau 33 tours. Je savais que c'était U2, donc ça, c'était écrit en gros, je le savais, mais j'avais pas le titre. Et donc, je me suis retrouvé très embêté et tout d'un coup, elle a collé sur la vitre la pochette du marqué en gros, souligné, elle m'avait marqué avec le feutre. Et moi, j'ai dit Without Without You avec le peu d'anglais que je connaissais. Ça a été, j'étais un moment où j'ai eu très très peur. J'ai fait des très très grosses gouttes ce jour-là, parce que justement, je ne savais pas trop quoi dire et on vous balance un titre comme ça sans savoir. On se fait des petits coups comme ça de temps en temps. Il y a celui-là, et puis il y en a un autre qui est rigolo.
C'était de bonne guerre.
Il y en a un qui est pas mal. Voilà, c'était de mon initiative personnelle. J'étais donc sur Radio Païs, une radio qui parle du pays du Béarn. Et donc, il y a beaucoup de patois. Ils parlent énormément la langue du sud-ouest.
Avec l'accent.
Avec l'accent et tout. Et donc là, je me retrouve sur une première radio. J'ai dit Radio Païs, la radio. radio qui fait pousser les maïs. Alors j'avais dit ça, moi j'avais sorti ça croyant que je voulais faire un peu d'humour, mais ça n'a pas du tout été pris comme ça. Le directeur des programmes qui m'a appelé après, qui m'a dit
voilà,
ça
tu vois, on se permettait à l'époque.
On pouvait
voilà.
se permettre, ouais, on pouvait se permettre. Même de, souvent, on accrochait un petit peu les titres exprès, comme par exemple pour Daniel Balavoine, Mon fils, ma bataille, ça devenait Mon slip à ma taille, par exemple. Ça, c'était des petites. On avait le droit de le faire, on avait le droit. Mais c'était très détente. Mais alors ça, par contre, c'était bien vu hein, par le public. Ils adoraient ça. Hein.
Et peut-être une anecdote aussi.
Oui. Ou... Alors, écoute, moi, j'en avais une par semaine. J'avais une anecdote par semaine puisque RFM avait la chance d'avoir comme parrain Jean-Jacques Goldman et il passait nous voir toutes les semaines. Et toutes les semaines, il nous emmenait au restaurant et c'est lui qui payait à manger. Alors donc, ça fait une anecdote par semaine. Et une autre un peu plus sérieuse, mais ça, c'est plutôt un excellent souvenir. C'est quand j'ai reçu au micro Monsieur Serge Gainsbourg, qui était venu dans les studios et qui nous a descendu 2 bouteilles de whisky. Voilà, ça c'est un excellent souvenir.
Oui, j'imagine.
Mais un mec en or, franchement, je sais pas si tu l'as connu, un mec en or.
Non, moi j'ai
or.
Pas eu cette chance-là. Les deux d'ailleurs. Aimé,
les deux d'ailleurs.
Peut-être un plus gros stress avant d'écouter les extraits, le plus gros stress que vous ayez eu en radio.
Le plus gros stress.
Est-ce qu'il y en a
Oui, m'est arrivé. C'était la coupure générale.
Ah oui,
alors, ça, c'est. Parce c'est que là, il faut gérer l'urgence de suite. On ne sait pas pourquoi. Grosse coupure, il n'y a plus rien qui passe. Et en plus, on était souvent seuls. Hein, il n'y avait pas toute une équipe technique qui vivait dans la radio. Hein, donc, il fallait se débrouiller. Ça, oui, ça, c'est assez traumatisant. Ouais. Un gros stress. Ouais.
Le stress à RCVL, c'est lorsque notre antenne de 32 mètres d'euros par une forme distale s'est cassée en deux.
Effectivement, on a vu les photos passer sur Facebook.
Mais,
si vous y
mais vous émettiez quand même
Stéphanie
encore.
Peut-être
elle émettait quand même.
Je crois pas. Il y a eu 48 heures là où on n'a pas émis.
Elle était vraiment cassée, oui. Tombée quoi. Ah, dommage.
On la voit peut-être en image aussi actuellement sur 33 mètres. Alors, je ne sais pas si on la voit sur la partie cassée, mais en tout cas. Voilà. Donc.
Moi, c'était juste la première émission. Mais vraiment la première, quoi. Là où on te largue, on te met devant les manettes, tu as appris pendant 2 mois, et après on te dit, voilà, tu vas faire ton émission. Bon, tu la prépares bien avant, j'avais préparé 2 ou 3 semaines avant. Mais tu es seul devant les manettes et dis, maintenant, il faut que tu y ailles, mon petit bonhomme, il faut mettre tes disques, il faut dire ce que tu as à dire, et il n'y a personne à côté de toi.
Alors, voilà. 19h01, autant vous dire qu'on est largement à la bourre, hein. On a encore 10 extraits écoutés. Donc, on est plus que, dans les temps, hein, tout à fait. On doit finir aux alentours de 19h15. Parce qu'on
t'as voulu parler
place.
À des pros,
On doit laisser la place quand même à une émission, Sonia, So Music Live, juste après. Donc là, ce sera du live, puisqu'on vous propose ça comme tous les mardis soirs, tous les 15 jours. Et ce soir, ce sera en direct vidéo aussi. Alors, on va écouter un extrait, c'est Bruno maintenant qui va nous le lancer, de RCVL, l'armoire aux souvenirs. Ça date du 12 décembre 1984. Monsieur Dessert, vous avez aidé d'ailleurs, au foyer Sadolé à Carpentras.
Voilà, ce sont des émissions que j'ai créées. Et toutes les semaines, je me rendais dans un foyer, interviewer la présidente, puis les résidents qui étaient là, qui avaient quelque chose à dire.
Et d'ailleurs, pour ce premier extrait, on vous expliquait qui était Jacques Sadolé.
Le plus beau refrain de la vie, c'est celui qu'on chante à 20 ans.
Les plus beaux moments de vos 20 ans dans l'armoire aux souvenirs couvrent pour vous André Dessert.
Le plus beau repas de la vie, c'est celui qu'on chante à 20 ans, celui que jamais l'on oublie, car la vie n'a pas ans. Qu'importe les tirs solides, aimez-vous pendant qu'il est temps. Le plus beau repas de la vie, c'est celui qu'on chante à 20 ans.
Nous retrouvons comme chaque mercredi à 14h30 André Dessert qui ouvre aujourd'hui les portes de l'armoire aux souvenirs du foyer Sadolé à Carpentras. Dédé,
Oui, Sylvie, les portes de l'Armoire aux souvenirs ouvrent ses portes aujourd'hui à Carpentras en compagnie de celles et de ceux qui fréquentent ce foyer, qui nous accueillent et qui portent le nom d'un homme prénommé Jacques, qui est né en 1478, mort en 1547, à l'âge de 69 ans et qui fut l'évêque de Carpentras de 1517 à 1543. Il fut aussi cardinal en 1536. Vous l'aviez deviné, il s'agit, vous l'avez dit en commençant Sylvie, de Sadolet, nonce du pape en 1543. Il intervient comme médiateur dans divers conflits avec les rois de France, ainsi que dans la guerre qui opposa calvinistes et catholiques. En correspondance, il était avec Luther, Mélenchon et Érasme. Il témoigne d'un esprit éclairé et d'une grande hauteur de vue. Son antipathie, toutefois, pour les Juifs est la seule ombre de cette belle silhouette de prélat humaniste. La gentillesse, l'amitié nous accompagneront tout au long de cette émission, ainsi que Sylvie, avec qui nous sommes en direct avec les studios. Bonjour Sylvie.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour aussi à Jean-Albert, ne pas oublier Jean-Albert, qui met en onde cette émission et sur qui dépend toute la bonne conduite de cette émission.
Voilà, on vient de l'entendre, monsieur de Serre, vous vous déplacez sur le terrain par téléphone, là, on était en liaison téléphonique. Et est-ce qu'il vous arrive aussi de couvrir peut-être des événements, notamment celui-là par exemple?
Ben, des événements, je suis tombé sur des gens qui avaient notamment des anecdotes de leur vie qui les a marqués, et puis d'autres qui nous ont fait qui nous ont poussé la chansonnette des chansons que personne n'a entendues et qu'on n'entendra peut-être jamais plus parce que voilà.
C'est... Alors on entend aussi une longue intro, Bruno nous le disait hors antenne, avant d'arriver vraiment au démarrage de l'émission, ça durait plus d'une minute, c'était courant à l'époque.
Oui, mais il faut savoir, et les auditeurs qui nous écoutent, que toutes les émissions que vous entendez ont été préparées. On n'arrive pas devant le micro comme ça et on déballe, voilà. Donc, Sadolet, je suis allé à la bibliothèque d'Aiguemmertine pour savoir qui était M. Sadolet, parce que beaucoup de Carpentras savent où est la rue Sadolet, mais Sadolet, qui c'est, on ne sait pas. J'espère que s'ils ont écouté l'émission, bien maintenant, ils le sauront.
Ah ben merci. On va écouter un deuxième extrait maintenant, toujours dans RCVL, l'armoire aux souvenirs. On parle cette fois-ci, on est toujours au foyer Sadolet à Carpentras, et vous donnez la parole notamment à Blanchette, qui souhaite écouter une chanson d'Edith Piaf, extrait.
Je pense si M. Albertini, qui est le responsable des cantines à Carpentras, nous écoute, je pense qu'il va retenir l'idée. Et je pense que pour la fin de l'année, peut-être le Papa Noël, pourquoi pas, va vous amener un four et vous ferez sûrement des bons petits gâteaux. Quelle est votre spécialité, petit gâteau?
Moi, j'adore faire les tartes.
Des tartes de toutes sortes, aux pommes.
De tartes, oui. D'ailleurs, je les adore, alors j'aime bien les faire.
Voilà, alors mesdames et messieurs qui nous écoutez, qui êtes dans ce foyer, vous écoutez, peut-être que le Papa Noël va apporter un four à Blanchette. En tout cas, c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Et enfin, elle va pouvoir vous faire des petits gâteaux. Alors, vous avez souhaité écouter un disque. Je sais que ce disque, c'est un petit peu porte-bonheur. C'est Edith Piaf qui le chante. Alors, expliquez-nous pourquoi.
Parce que c'est la chanson sur laquelle j'ai dansé pour la première fois avec mon mari. Et comme il va y avoir 37 ans de mariage, alors cette chanson a toujours été notre fétiche.
Je le sais. Toutes les fois que vous nous avez appelé à RCDL, c'était pour nous réclamer cette chanson. Blanchette, vous allez nous dire pour qui vous voulez dédicacer spécialement. C'est pas l'émission dédicace, mais en fait, on profite de dire, tiens, je dédicace ce disque plus particulièrement pour vous, à votre mari, puisque depuis 37 ans, c'est le grand amour.
Mais aussi à tous les pensionnaires du foyer Sadolet.
Beaucoup d'ambiance ici.
J'entends en effet André.
Voilà, donc à l'époque, effectivement, on entend beaucoup d'ambiance, mais c'était vraiment de la radio de terrain.
Ah, mais quand les gens savaient que RCVL allait venir au foyer, c'était l'effervescence. Les dames allaient chez le coiffeur, la poudre de riz, alors là, déjà que je suis allergique à la poudre de riz, je vous dis pas, les bisous, c'était l'événement.
Alors, est-ce que dans ces extraits qu'on vient d'entendre, il y a plusieurs voix, notamment une voix féminine, qui c'est?
Oui, alors là, c'était Sylvie Mougeot qui m'accompagnait dans toutes les émissions. Sylvie Mougeot se partageait la tâche d'RCVL, les radios, pas les radios, les émissions. Un coup c'était Sylvie qui faisait le matin et un coup c'était Jacqueline Thénard qui faisait l'après-midi et vice versa. Voilà, ce sont les deux qui étaient toujours avec moi et Jean-Albert Delorme qui était à la technique, c'était mon technicien préféré.
Monsieur Dessert, on va continuer à remonter un petit peu ces émissions qu'on a entendues sur RCVL, si on était entre 81 et 88, 89, notamment avec le foyer 3e âge de Sarian, où là vous donnez la parole à Antoinette, qui raconte son voyage au Gabon. Promet, on l'écoute.
C'était Bombe de Venise.
Eh oui, bien sûr.
Qu'on appelle ici dans la région le Petit Nice, et voilà. Alors, j'ai en face de moi, ou plutôt à mes côtés, Antoinette Gondran, qui est une grande voyageuse, car elle est allée au Gabon. Est-ce que vous y êtes allée avec le club?
Ah non, pas du tout. À ce moment, je suis été parce que mes enfants, ils étaient au Gabon, et je suis été les voir. Voilà pourquoi je suis été au Gabon en 75.
C'est grand le Gabon. Exactement où vous êtes allée au Gabon?
Ah ben, je suis passée par Libreville, puis de là, je suis été à Franceville. Puis alors, il y a pas mal de petits villages autour du Gabon, tout ça. Alors, c'est l'Otogoué, où il y a des coutumes spéciales. Et j'ai d'ailleurs été très surprise de voir leurs coutumes. Et quand je suis arrivée du Gabon, eh bien, je n'osais pas trop en parler parce que ce que je racontais me paraissait invraisemblable. Et je disais toujours, on va me prendre pour que je suis de Marseille. Et alors, voilà pourquoi je me tue. Et quand mon mari a été, alors qu'il a vu les coutumes, alors à ce moment-là, eh bien, comme nous étions deux, et ma foi, je n'ai plus parlé plus facilement.
Oui, vous n'avez plus eu peur du ridicule.
Oh oui, beaucoup plus que ce qu'on croyait, parce que tellement c'était invraisemblable qu'on se demande si c'est vrai.
C'était le dépaysement total alors?
Ah, totalement. Nous étions en brousse, et d'ailleurs, quand on partait avec 5 ou 6 voitures parce qu'on ne se serait pas aventuré dans le Gabon comme ça, parce qu'on savait très bien qu'on allait trouver des villages où ils ne connaissaient pas le blanc.
Aïe, 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 en effet. Alors, et est-ce que vous avez eu peur quelquefois de rencontrer des bêtes dites sauvages?
Oh oui, plutôt, vous savez, parce que là-bas, eh bien, y en a pas mal. Et d'ailleurs, au début, dans Franceville, c'était au début que mes enfants y étaient, Franceville s'appelait le Mascou.
Ah bon?
Et alors après, alors ça a été par le président Bongo qui est de là-bas et qui a voulu que Franceville soit une ville. Sinon, c'était ni plus ni moins qu'un pays de brousse.
Ah, d'accord. Vous avez été impressionné, donc vous avez eu quelquefois peur en arrivant au Gabon? Vous étiez impressionné?
Oui, on était...
Pas très rassuré?
Pas très rassuré, vous savez, surtout quand on allait dans les villages. Et alors en pleine brousse, il arrivait très souvent que c'était des pistes. Alors il fallait pousser les voitures. Ah. Parce que s'il pleuvait, toutes les routes, c'était intraficable, alors il fallait les pousser.
Et oui, bien sûr.
Et quand nous arrivions dans un village, ou qu'on traversait un village, et bien à ce moment-là, j'avais la caméra, j'essayais de filmer un peu. Mais c'est souvent qu'on me montrait le poing.
Ah bon, il ne voulait pas qu'on vous...
Il fallait pas s'arrêter. On n'était pas rassurés du tout.
Voilà, donc un extrait sur le foyer 3e âge de Sarian, où Antoinette nous raconte un petit peu son voyage au Gabon.
Oui, là, on a entendu la voix de Jacqueline Thénard.
Qui était cette dame?
C'était la speakerine.
La speakerine, voilà, d'RCVL.
Voilà, qui se remplaçait avec Sylvie. Un coup, elle faisait le matin, un coup, elle faisait l'après-midi. Parce qu'il y avait toujours quelqu'un à l'antenne, en dehors des émissions qui étaient programmées.
Alors, vous nous disiez tout à l'heure aussi, les émissions, ça se prépare, les interviews aussi. Celui-là était préparé ou c'était en fonction aussi des réponses de chacun? Alors là, on voit la speakerine, par contre.
Là c'était
au feeling, en fonction des réponses.
Voilà, au fur et à mesure.
Le plus dur, d'ailleurs.
C'est vrai que quand je réécoute, je me dis que si j'avais dû l'enregistrer, j'aurais coupé quand même un petit peu avant. Je ne sais pas, parce que bah bon, 40 ans après, bien sûr, il faut quand même se mettre dans le contexte suivant, c'est que ça se passait 40 ans en arrière. Hein. Voilà, donc l'esprit n'était pas le même.
Alors on va passer à un autre extrait, celui-ci, il est assez court. Monsieur Dessert, vous donnez la parole à Antoinette, toujours, qui chante une chanson un peu particulière. Pousse, pousse. Monsieur.
Ah oui,
monsieur. Ah là, moment d'anthologie sur RTVFM à 19h13.
Il faut l'écouter, celle-là.
On l'écoute.
Il est né à Irun, province de Guipuscoa, le 12 août 1920. Il s'appelle Luis Mariano González. Son père est garagiste et agent Citroën lorsque la guerre civile éclate en Espagne. Il se trouve à Hendaye où son père sort de convalescence à la suite d'une grave opération. La maison détruite, la famille s'installe à Bordeaux, où Louis entre à l'école des Beaux-Arts. À l'automne 39, au cours de journées de vendange, ils chantent à tue-tête dans les vignobles, tout en cueillant le raisin. Le patron de la propriété, impressionné par la beauté de sa voix, lui conseille d'entrer au conservatoire, et il enregistrera son premier disque que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui dans cette émission. C'est un tango qui s'intitule Calezita de Minovia et ça date de 1939.
Alors c'est du direct, c'était pas le bon fichier, mais en tout cas c'est celui qu'on allait écouter juste après. RCVL, la vie de Luis Mariano, c'était une courte biographie je crois de Luis Mariano.
Oui, Luis Mariano, j'avais découvert ce document, son premier disque qu'il a enregistré c'était un tango.
D'accord, un tango, voilà, qu'on vient d'écouter. Alors Bruno, maintenant il nous faudrait s'il te plaît le fichier RCVL du troisième âge, Sarian, où là on parle d'Antoinette qui chante une chanson.
Si le comptable m'était compté.
Non, non.
Non, Bruno, c'est la manette de droite.
C'est, toi ça doit être l'extrait numéro 5. Voilà, tout simplement. L'extrait numéro 5 pour toi, Bruno. Voilà,
pour les auditeurs qui nous écoutent, on est en direct.
Ah, hein, ça, ils l'ont bien compris.
C'est parti, on n'a rien préparé. Là.
C'est parti, on y va.
Allez-y, poussez, poussez plus fort. Je sens que c'est la queue qui démunit. Tout en la regardant, je lui répondis. Au contraire, je crois qu'elle grandit. Au magasin, chaque jour. Non, attendez.
Reprenez-vous, Antoinette.
En sortant du ciné, je lui dis, chez moi, je vais vous amener. Elle fit quelques manières, puis elle se laissa faire. Là, sans perdre un instant, je la conduis dans mon logement. Là, tout de enlacée, je ne la fais pas de l'embrasser. Je m'endormis ensuite, mais soudain, la petite crut certainement rêver qu'elle m'essayait d'essouiller. Car je l'entendais tout bas me dire en soupirant, allez-y, poussez, poussez, monsieur, vous verrez que ça ira bien mieux.
Voilà, donc il vous arrivait souvent
de diffuser ce genre de coquine,
choses
ça, hein,
complètement, des choses légères comme ça vous arrivait souvent.
Mais non, c'était la première fois qu'on lançait la chansonnette un peu coquine comme ça sur les antennes.
Voilà, donc
ouais, on travaillait en direct.
Ah oui, tout à fait. Troisième âge, Sarian, à l'époque, c'était les radios libres. Donc on était libre sur beaucoup de choses. On le voit bien, encore une fois, sur ces extraits. Alors on va presque finir cette émission, il nous reste encore deux extraits, puisque je vous rappelle en préparation l'émission So Music Live dans quelques minutes, donc restez bien à l'écoute sur l'antenne d'RTVFM. On va écouter un autre extrait, si le comptable m'était compté, donc c'est le fichier numéro 8 pour Bruno. Voilà, donc on va l'écouter. C'était une émission qui était faite par
Jean-Pierre Chabanne.
Voilà, et
qui se rendait chaque semaine, il allait interviewer un maire d'une commune du district à l'époque. C'était pas la Corse, c'était le district.
Et on va écouter un extrait, on en reparle juste après.
Si le comptable était compté. De Jean-Pierre Chabanne et Georges Brun. Nous retrouvons Georges Brun cette semaine sur le même sujet que la semaine passée. Jules Bonaventure Laurence, artiste peintre, graveur et écrivain comtadin qui se fit un nom à Paris sous l'Empire et la Restauration et participa pour beaucoup à la culture régionale de son temps. Georges Brun va sortir pour nous l'un de ses livres précieux avec tous les plus beaux visages féminins de notre ville et de nos villages. Et c'est Jean-Pierre Chabanne qui va nous le décrire avec son bon maître.
J'aimerais te faire voir quand même quelques peintures et quelques dessins de ce Bonaventure Laurence.
Ah, tu vas me sortir ton livre.
Hein. L'album des.
Tu vas le chercher. Alors là, tu vas me faire plaisir. C'est un livre très très rare, je crois. Et il est en bon état, le tien ?
Eh non, malheureusement, le dos est tout estripé là. Mais c'est pas une raison pour que tu me le scannes.
Je te scannerai pas.
Je regarderai avant que tu.
Oh, il est magnifique ce livre. Alors, l'album des dames, type et portrait de femme peint. par J.B. Laurent.
Et d'après, alors, d'après
c'est ça qui est important. Mmh. Lithographié en couleur par son frère Jules Laurent et imprimé en aquarelle par Le Mercier. Et même des poésies, poésies par Soulary et
Oui, il y a eu, voilà, son idée était la suivante.
Oui.
Il y a une femme, un poème et une pièce de musique.
Voilà, donc un extrait d'une émission bien connue de l'époque, si le compte était compté, c'était bien écouté d'ailleurs.
Georges Brun, qui malheureusement nous a quittés, mais qui était une encyclopédie des histoires carpentraciennes. On a beaucoup perdu.
Donc à l'époque, c'était Jean-Pierre Chabanne et Georges Brun.
Georges Brun.
Alors, moi, petite question aussi, quels étaient peut-être les horaires de travail à l'époque sur la radio? Il n'y avait pas d'heure?
Non, pas d'heure. Non, non, c'était on travaillait, bon, on était libre, certes, mais on travaillait beaucoup. Mais en même temps, on était tellement bien qu'on n'avait pas envie de faire ça. On n'avait pas envie de faire autre chose. Hein. Je me souviens bien, entre la préparation des émissions et la préparation des horoscopes, les infos, c'était à part, c'était les journalistes qui s'occupait du flash info, mais il y avait aussi toute la partie communication avec les jingles. Ils étaient faits par nous-mêmes. Il y avait toute la publicité, les textes à écrire, tout ça. Ça prenait la journée. Hein,
l'habillage était fait par vous-même. Oui, pour André, c'était pareil sur RCVL.
Ah, pareil.
Et sur RFM à l'époque ou RMS.
Après, c'était RFM Paris qui nous envoyait carrément. Mais au début, oui, c'est comme Laurent. On les faisait nous-mêmes, oui.
Alors, est-ce qu'on connaissait les audiences de l'époque? Il n'y avait pas Médiamétrie. Comment on calculait un petit peu cette audience?
Je ne me souviens pas, mais je sais qu'on avait des statistiques, parce que il me semble en avoir vu passer quelques-uns. On avait quand même des... Mais je
dans
sais
les
pas
journaux,
du tout. Dans
journaux
les journaux, oui. Ouais. Mmh. Je pense que c'était ça, oui.
C'est eux qui mesuraient, en fait, et qui mettaient sur le journal, telle et telle radio est très écoutée, voilà.
Alors, question, pas à Gilbert, mais à André Dessert et Laurent Bad Boy. Pourquoi est-ce que vous avez arrêté la radio suite à cette époque?
Aïe.
Alors moi, dans mon cas, moi, je peux vous répondre tout simplement, c'est parce que je suis resté dans le son. Hein. J'ai la chance de pouvoir vivre de ça aujourd'hui, mais j'ai commencé avec les radios. Et donc, lorsque j'ai quitté la radio, c'était parce qu'on m'a proposé un poste dans un studio d'enregistrement. C'est là où j'ai fait toute ma formation, à Dax, pour être plus exact, dans les studios Malfroy. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté la radio. Et puis, j'avais senti aussi qu'il fallait passer à autre chose, les animaux. Tout ça, ça commençait à moins me plaire. Je me suis plus concentré dans l'enregistrement. Voilà, la qualité sonore, l'acquisition sonore. Voilà, c'est pour ça que je suis devenu preneur de son.
André.
Alors, il faut dire que bon, RCVL était la radio carpentracienne et que peut-être l'avez-vous découvert en m'écoutant, j'ai l'accent de la Provence. Paraît-il, ça ne plaisait pas à certaines personnes. Et, bon, je vais pas m'étaler là-dessus parce que ça prendrait trop d'importance. On a arrêté parce que les Revox, eh bien, ne marchaient presque plus. Lorsqu'on lançait une émission, ça repartait comme ça. Donc, c'était pas la peine de continuer. Voilà. Donc, ils n'ont pas voulu renouveler le matériel et RCVL s'est éteinte comme elle était née. Voilà.
Alors, pour préparer une émission, combien de temps on mettait à peu près sur une émission d'une heure, par exemple?
Ouh, une émission d'une heure, il faut compter une heure de préparation, même plus.
Oui,
parce qu'il faut rencontrer les gens, il faut leur dire les questions qu'on va leur poser.
Ça dépend quel type d'émission, j'ai envie de dire.
Voilà.
Ça dépend quel type d'émission, hein, c'est toujours pareil. Hein. S'il y a des interviews, tout ça, c'est sûr qu'il va falloir beaucoup plus de temps pour la préparation. Si c'est uniquement musical et présenter des morceaux de musique, c'est pas pareil. Hein.
Ne
c'est
pas poser des questions bêtes pour avoir des réponses bêtes. Hein,
voilà. je voudrais revenir,
oui ou non, pareil.
Je voudrais revenir une seconde sur ce que vous avez dit. Vous m'avez posé la question tout à l'heure. Pourquoi on a arrêté pourquoi moi aussi j'ai arrêté la radio? Il y a un élément aussi qui a été vraiment déterminant, c'est que petit à petit la radio était en train de se professionnaliser, on avait de moins en moins de liberté, on avait de moins en moins on était de moins en moins considéré aussi, et donc ça m'a un petit peu
Mais est-ce que vous le retrouvez un petit peu là, vous qui intervenez aujourd'hui dans cette émission?
Non, mais c'est pour ça je suis ravi. Lorsque vous m'avez proposé de venir à cette émission, j'étais ravi parce que c'est voilà, je retrouve vraiment je retrouve
nos débuts,
les débuts, ce qu'on a fait. On a cette chance là de pouvoir en voir une. Je ne savais pas que ça existait encore, vous voyez. Et on a cette chance-là.
Tu comprends pourquoi je suis ici aujourd'hui?
Voilà. Non, mais c'est très, très
bien.
Il ne
m'a pas posé la question d'ailleurs, parce que moi, je n'ai jamais arrêté la radio. Voilà pourquoi.
C'est pour ça.
Merci RTFM pour ça, parce que c'est formidable. Ben, merci beaucoup.
Allez, écoutez, il me semble que c'est moi qui parle. Voilà, donc,
ah non, aussi. Il a moins d'accent. Non, il a moins d'accent.
Moi, j'ai l'accent et j'en suis fier. Je me suis arrêté aussi parce que bon, il y avait des choses, on ne pouvait plus faire ce qu'on voulait faire.
Oui,
donc,
vrai.
Je suis passé à la télé locale. On a créé la télé locale, la première télé locale à Carpentras aussi, il faut le dire.
Ça s'appelait comment à l'époque, vous rappelez du nom? Porter un nom peut-être Télé-Carpentras peut-être tout simplement, je ne sais pas.
Voilà, donc ça se passait par cassette. On travaillait avec du matériel national, avec le portable, enfin le magnétoscope qui faisait 14 kilos à l'épaule.
Ouais. Avec la lanière.
C'était du demi-pouce qu'il fallait après monter, coller. Enfin, c'était dingue.
Oui, mais André, tu faisais quand même exprès parce que tu peux pas parler sans accent.
Ah non.
Non, bon, d'accord. Non.
Pas possible.
Alors, je suis désolé, ça fait plus d'une heure et demie, presque une heure et demie qu'on est ensemble. Ah bon, on va devoir presque abréger l'émission.
Déjà,
puisque Sonia est derrière, elle me regarde, attention, puisque So Music arrive. Juste avant, on va écouter le dernier extrait de cette émission, où là, on parle de RFM Tour, un extrait d'émission Carte Postale de Willy qui est à nos côtés, où là, il y a les jingles de RFM. Donc, on finit par le meilleur, c'est ça que tu veux dire
Non, j'étais en train de dire à Sonia qu'elle ne s'inquiète pas, c'est pas long.
Il leur restera 5 minutes pile poil, ça devrait le faire. Donc, on écoute cet extrait et on se retrouve juste après pour en parler.
On va retrouver maintenant monsieur le parrain. Là, je ne vous en donne pas le nom, bien sûr, vous le connaissez toutes et tous. Tu t'appelles Pascalou. Eh oui, Pascalou d'Evres. Et ta dédicace est pour Marilyn, Hippolyte, Freddy, Christelle, Timmy et Véron du Passoir. Et bien sûr, aux autres que tu aurais oubliés. Jean-Jacques Goldman avec Envole-moi. Il y avait longtemps celui-là qu'on ne l'avait pas entendu. Hein. Carte postale jusqu'à 13h, Woody avec vous. Minutes, c'était RAF, RAF, Self-Control, de la part d'Edith Leroux de Louan, pour Catherine Bertrand, Christelle Pirochon de Chambourg et Patricia Audoubert de Dolu-le-Sec. Et puis, bien sûr, pour elle-même, un disque qui n'est pas très demandé, mais qui pourtant est superbe, vous allez le voir, Jan Miles avec You Shouldn't Do Me Like That. Ah, vous, c'est pas trop facile à dire.
Donc, émission Carte Postale qui était sur RFM Tour. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Willy ?
Le dimanche, de 10h à 13h. Et pendant toute la semaine, je recevais les cartes postales des auditeurs qui me demandaient 3 titres. Je faisais exprès, comme ça je pouvais regrouper les demandes pour un même titre. Et ce qui explique ce qu'on vient d'entendre, il y avait beaucoup, beaucoup de dédicaces pour un seul titre. Et là, comme on choisissait, nous, c'était pas YouTube, c'était les disques qui étaient derrière nous. Donc, c'était beaucoup plus facile de choisir un titre parmi les 3 et de tout regrouper. Voilà, c'était l'émission Carte Postale, effectivement.
Voilà, donc tu lisais une carte postale de plusieurs auditeurs qui dédicassaient une chanson.
Je préparais l'émission à l'avance. En fait, je réécrivais les trucs, parce que sinon, de lire les cartes postales, j'en aurais un gros paquet devant le micro. C'était pas très pratique.
Mais nous arrivons à peut-être monsieur de Serre.
Oui, ben, simplement, je voudrais terminer pour vous remercier tout le staff de RTV-FM, et je voudrais préciser à Stéphanie, j'ai pas pleuré.
C'est non. Pleuré, mais...
Vous voyez, on a gardé le.
J'ai le cœur qui est gros.
Merci aussi, Florian. Je dis merci aussi.
Moi, je tenais à remercier effectivement nos invités. Tout d'abord, effectivement, Laurent Bedboy, qui est venu animateur radio, aujourd'hui directeur général Patchwork Music Label, qui est venu nous parler un petit peu de cette histoire des radios libres que tu as fait, notamment sur de nombreuses radios dans le Sud-Ouest. Oui. Merci encore d'être venu.
Merci à vous. Merci de m'avoir invité. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette émission avec vous.
De même. Et André Desserre, merci beaucoup. Franchement, un puits de.
C'est moi
qui vous
remercie.
Sur RCVL, c'est ce qui nous a permis au Trot de faire l'émission aussi, puisqu'il y a beaucoup de sons d'archives, on vient de l'entendre sur cette émission. Donc c'est un plaisir de vous avoir eu dans cette émission.
C'est un dixième, ça.
Oui, et oui, de toute façon, on aurait pu passer effectivement.
Vous aviez eu des Revox et compagnie, j'avais.
On aurait pu faire une émission de 6 heures minimum.
même plus.
Bon, Willy. Je vais te remercier aussi quand même.
Oui, mais j'ai dit merci à RTVFM aussi, normal. Voilà. Vous m'avez invité. Pour une fois que je parle d'une autre radio que de la mienne, et ben voilà.
Tout
merci.
À fait. Voilà. Merci Stéphanie aussi d'avoir monté tout le conducteur de cette émission, d'avoir été la petite main qu'on ne voit pas à l'arrière, mais qui pourtant a fait beaucoup pour cette émission.
Je tiens
à la remercier.
Aussi, hein.
Voilà, je tiens à la remercier puisqu'elle nous a permis d'avoir un très bon conducteur sur cette émission et en tout cas d'arriver à tout caler, comme on dit. Merci Stéphanie.
Bah avec plaisir, et comme ça, j'ai appris pas mal de choses sur une époque que je n'ai pas connue.
Tu t'es pas ennuyé.
Non, pas du tout.
Et puis, Bruno. Merci aussi Bruno, puisqu'il est à l'arrière. Sans Bruno, sans la technique, on ne peut pas faire grand-chose. C'est lui qui a envoyé tous les fichiers. Croyez-moi, c'était pas évident, puisqu'il y a plus
petite bavure, mais ça a été.
Il y a plus d'une dizaine d'extraits quand même. Donc à envoyer, ce qui est pas évident. Et puis en plus, ça s'enchaînait. En tout cas, merci beaucoup Bruno. On se retrouve tout au long de l'année maintenant sur la FM, dans les différentes chroniques. Stéphanie aussi. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. 19h28. Restez à l'écoute sur l'antenne d'RTV FM dans moins de 5 minutes. Votre émission So Music Live avec Sonia, qui reçoit des invités. Elle en parlera, donc restez. On reste en Facebook Live, bien évidemment, sur Twitter et sur Twitch. Très belle soirée à tous. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
RTV FM vous a présenté une émission spéciale à l'occasion de la fête de la radio pour célébrer ses 100 ans et les 40 ans de la libération des ondes.